Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du jeudi 7 novembre 2024, en direct de Washington. Rosine Munezero, pour commencer les titres. Joe Biden s'adresse aux Américains, s'est adressé aux Américains pour préparer la transition avec le président élu Donald Trump. Au Mali, la mission de l'ONU aura complètement quitté le pays le 15 novembre. Au Mozambique, des milliers de manifestants ont envahi les rues de Maputo pour dénoncer les résultats des élections. Et dans notre parti magazine, les Mauriciens sont appelés à élire leurs députés dimanche après un scandale d'écoute téléphonique à grande échelle. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden s'est engagé jeudi à une transition pacifique et ordonnée avec le président élu Donald Trump. Le dirigeant démocrate a insisté sur la nécessité de faire baisser les tensions politiques lors d'un discours depuis la Maison-Blanche, son premier après la victoire du républicain. Le point avec Jacques Aristide.
L'actuel occupant du bureau ovale s'est adressé aux Américains pour préparer la transition jusqu'au 20 janvier avec le président élu Donald Trump qui a battu sans appel la candidate démocrate Kamala Harris. Joe Biden a insisté sur la nécessité de faire baisser les tensions politiques dans un pays à cran lors de son discours depuis la Maison-Blanche, son premier depuis la victoire du républicain Trump à l'élection présidentielle. Le président Joe Biden.
Hier, j'ai parlé avec le président élu Trump pour le féliciter de sa victoire et je l'ai assuré que je donnerai à toute mon administration de travailler avec cette équipe pour assurer une transition pacifique et ordonnée. C'est ce que le peuple américain mérite.
Depuis sa victoire, Donald Trump, 45e et bientôt 47e président des États-Unis, a été félicité par Joe Biden, qu'il avait battu en novembre 2020, par Barack Obama, à qui il avait succédé, et par Kamala Harris, qui a reconnu sa défaite hier. Joe Biden a invité le républicain à la Maison-Blanche à une date non précisée.
Au dernier décompte, le président élu Donald Trump a obtenu 295 grands électeurs, bien au-delà des 270 nécessaires à la victoire. Et la candidate démocrate Kamala Harris a obtenu 226 voix. Les médias américains ont déclaré Trump vainqueur dans plus de la moitié des 50 États américains, y compris les principaux champs de bataille que sont la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui ont tous voté démocrate lors des dernières élections. Les derniers appels n'ont pas encore été faits en Arizona et au Nevada. Nous reviendrons sur ces élections américaines dans notre partie magazine.
Le bras de fer politique et judiciaire entre le candidat à la présidentielle.
Au Mozambique, des policiers doublés par l'armée, des blindés et des chiens ont stoppé ce jeudi à l'aide de gaz lacrymogène milliers de manifestants sortis dans les rues de Maputo. Ils répondaient à l'appel du principal opposant, Venancio Mondlane, qui dénonce depuis l'étranger les résultats des élections. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le bras de fer politique et judiciaire entre le candidat à la présidentielle et le parti au pouvoir s'est traduit ce jeudi par des feux de poubelle et de jets de pierres de certains des partisans de Venancio Mondlane, armés de lance-pierres. Le ministre de la Défense, Cristóvão Chumeu, avait prévenu que si l'escalade de la violence se poursuit, les forces armées vont devoir protéger les intérêts de l'État. La manifestation, répartie en six cortèges, devait converger vers la présidence. Cette journée de libération du Mozambique, comme l'a baptisé Venancio Mondlane, était présentée comme le point culminant de semaines de contestation des élections depuis la victoire proclamée du Frelimo, le parti au pouvoir. Drapeau mozambicain dans les mains et claquettes aux pieds, une foule dense a répondu au rendez-vous donné par Venancio, comme l'appelle son électorat jeune et connecté. Crédité de 20% des voix par les résultats officiels, l'opposant revendique la victoire aux élections générales du 9 octobre.
Au Ghana, le Parlement a une nouvelle fois suspendu ses activités pour une durée indéterminée après l'absence des députés du parti au pouvoir lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le Parlement a déjà été suspendu une première fois fin octobre. Quatre députés ont voulu se présenter aux législatives de décembre sous des étiquettes différentes, ce qui est interdit par la Constitution. Le président du Parlement, Alban Bagbin a déclaré les quatre sièges vacants qu'ils avaient permis à l'opposition d'avoir une légère majorité. Mais le 30 octobre, la Cour suprême a ordonné de revenir sur cette décision pour éviter que le pays ne se retrouve sans député. La mission de l'ONU au Mali quitte complètement le pays le 15 novembre au terme du processus dit de liquidation, selon le Conseil des ministres maliens. Le point avec Alexandrine Rolognon.
Cette phase prend fin avec la rétrocession du camp de Bamako et le rapatriement de l'ensemble du personnel international civil, des contingents et des équipements. L'aménagement a clos fin décembre 2023, mais l'arrêt de ses activités a été suivi de plusieurs mois de liquidation consistant à remettre aux autorités nationales ou évacuer les derniers équipements et mettre fin aux contrats existants. La mission comptait environ 15 000 soldats et policiers venus de dizaines de pays. Sa présence était devenue intenable après l'avènement des militaires au pouvoir en 2020. À la demande de la junte, le Conseil de sécurité a mis fin à cette mission onusienne. Plus de 180 membres de la MINUSMA ont été tués dans des attaques imputées au groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. En dehors de la MINUSMA, le Mali a rompu l'alliance avec la France et s'est tourné militairement et politiquement vers la Russie.
Le haut fonctionnaire équato-guinéen Balthazar Ebang Angonga, auteur de sextapes qui ont suscité un buzz international sur les réseaux sociaux, a été démis de ses fonctions par décret présidentiel et accusé dans un témoignage diffusé par la télévision d'État d'avoir conservé ses vidéos sans consentement. Les sextapes tournés à des dates inconnues dans différents lieux, dont son bureau au ministère des Finances et avec différents partenaires, dont des épouses des dignitaires locaux, ont fuité sur les réseaux sociaux alors qu'ils se trouvaient en détention préventive à la prison Black Beach de Malabo dans une affaire de détournement de fonds publics. 22 personnes ont été tuées dans une attaque mercredi par des voleurs de bétail dans l'état d'Équatoria centrale au Soudan du Sud. C'est ce qu'ont indiqué mercredi les autorités locales. La vitesse de propagation du virus du Mpox en Afrique subsaharienne est en léger ralentissement. Le nombre de cas restant toutefois en hausse en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministère des Affaires étrangères britannique a annoncé des sanctions à l'encontre de groupes de parlementaires russes en Afrique, dont Africa Corps, considéré comme le successeur de Wagner. Nathalie Balge.
Selon le communiqué de Londres, les sanctions visent trois groupes de mercenaires privés ayant des liens avec le Kremlin, dont Africa Corps, et 11 individus associés à des mandataires russes qui ont menacé la paix et la sécurité en Libye, au Mali et en République centrafricaine. Les groupes Africa Corps, la Brigade Bears et PMC Española sont accusés d'avoir commis des violations des droits humains sur le continent et d'exploiter les ressources naturelles de ces pays pour leur profit, indique le communiqué. Le groupe Africa Corps a été créé par le ministère russe de la Défense pour remplacer le groupe paramilitaire Wagner, dont le chef Yevgeny Prigozhin a été tué dans des conditions obscures pendant le crash de son avion en août 2023. Les sanctions de Londres visent également une trentaine de fournisseurs d'équipements militaires basés en Chine, en Turquie et en Asie.
L'armée israélienne a appelé jeudi les habitants de plusieurs secteurs du nord de la bande de Gaza à évacuer des zones de combat après des tirs de roquettes vers Israël. Les forces israéliennes ont lancé le 6 octobre une opération terrestre de grande envergure dans le nord du territoire pour, selon elles, empêcher les combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas de s'y regrouper. Le chancelier allemand Olaf Scholz subit une pression croissante de l'opposition et des milieux économiques pour quitter le pouvoir sans délai après l'éclatement de sa fragile coalition gouvernementale qui a plongé la première économie européenne dans une grave crise. L'implosion redoutée de longue date du gouvernement tombe au plus mauvais moment pour l'Allemagne, aux prises avec une grave crise industrielle et pour l'Europe qui s'inquiète des répercussions pour son commerce. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué le 28 octobre le délégué général chargé de la Corée du Nord en l'absence d'ambassade pour signifier la désapprobation de la France au soutien nord-coréen à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Au Togo, le gouvernement a annoncé que la production de café avait doublé entre 2013 et 2023 pour atteindre plus de 27 000 tonnes. APA News précise que la filière café togolaise se concentre principalement sur le café arabica, cultivé dans la région de Chouadjo, la zone centrale et les plateaux au sud-est. Jusqu'ici, la production souffrait des problèmes d'infrastructure, de gestion agricole et de fluctuation des prix mondiaux. Les autorités burkinabées ont annoncé hier le financement de la modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso à hauteur de 80 milliards de francs CFA. Pour Ecofin, ce vaste projet d'infrastructure vise à renforcer le secteur aérien, mais également à stimuler des activités économiques connexes tels que le tourisme, l'hôtellerie, ainsi que les secteurs agricoles et commercial. Le développement de la production d'hydrogène renouvelable en Afrique va aider les États africains à mieux répondre à leurs besoins en électricité, selon le dernier rapport du Conseil de l'hydrogène qui regroupe 140 sociétés à travers le monde. L'Afrique est exceptionnellement bien positionnée pour produire de l'hydrogène renouvelable et ses dérivés grâce à ses ressources solaires, éoliennes, géothermiques et hydroélectriques.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La CAF augmente les primes des clubs féminins qualifiés pour la Ligue des Champions.
Oui, chacun des 8 clubs africains de foot féminin participant à la Ligue des Champions féminines va recevoir au moins 150 000 $ de primes. Le vainqueur recevra 600 000 $. L'équipe finaliste aura 400 000 $, 350 000 $ pour la troisième place et 300 000 $ pour la quatrième place. La Ligue des Champions féminines a été inaugurée en 2021. La CAF dit vouloir développer et promouvoir le football féminin en Afrique. D'après son président, Patrice Motsepe, l'objectif est d'investir dans des académies de jeunes pour les garçons et les filles et de continuer à augmenter les primes de toutes les compétitions de la CAF. La compétition débute ce samedi dans les villes d'El Jadida et de Casablanca au Maroc et prendra fin le 23 novembre. Elle mettra aux prises 8 clubs, l'AS Far du Maroc, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Aigle de la Médina du Sénégal, Edo Queens du Nigeria, University of the Western Cape d'Afrique du Sud, FC Massar d'Égypte, CBE FC d'Éthiopie et le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo.
Crépin Diatta fait son retour dans la tanière des Lions de la Teranga.
L'entraîneur du Sénégal par intérim, Pape Thiaw, a convoqué 28 joueurs, dont Crépin Diatta, pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions de la Teranga affrontent le Burkina Faso le 14 novembre à Bamako au Mali, avant de recevoir le Burundi le 19 novembre à Djamia Djo. Pas grand changement dans la liste de Pape Thiaw. Les cadors Sadio Mané, Idrissa Ganagé, Kalidou Koulibaly, Pape Matassa, entre autres, sont là. Pour rappel, le seul enjeu dans ce groupe L, c'est la première place que se disputent le Burkina Faso et le Sénégal, 10 points chacun, et déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025.
Ici en NBA, Cleveland reste la dernière équipe invaincue.
Les Cleveland Cavaliers ont poursuivi leur formidable début de saison avec un 9e succès en autant de matchs sur le parquet des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 131-122, grâce notamment à 29 points de Donovan Mitchell. Les Cavs réussissent ainsi le meilleur début de saison de leur histoire avec leur nouvel entraîneur Kenny Atkinson, adjoint de Vincent Collet cet été aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. De son côté, le King LeBron James, qui débute à 39 ans sa 22e saison NBA, a montré les muscles à Memphis avec 39 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Malgré le meilleur match de leur star depuis la reprise, les Los Angeles Lakers ont été terrassés par les Grizzlies 131-114. Les San Antonio Spurs ont sombré à Houston 127-100. L'éternel Stephen Curry a brillé avec les Warriors 27 points, 9 rebonds et 9 passes décisives dans un match à rebondissement qui a vu Golden State s'imposer chez le champion Boston 118-112. Philadelphie est tombée 110-98 devant les Los Angeles Clippers.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Avec la victoire de Donald Trump à la présidentielle de 2024, Tina Trin de la VOA visite ses politiques passées et ses positions actuelles pour tenter d'offrir un aperçu de sa future présidence. Le récit est de Lionel Gaïma.
C'est officiel. Donald J. Trump, 78 ans, l'ancien président américain, occupera à nouveau la Maison-Blanche en tant que président des États-Unis. Comme Grover Cleveland à la fin des années 1800, Trump servira deux mandats non consécutifs en tant que 45e et 47e président des États-Unis. Pour comprendre comment pourrait se dérouler une seconde présidence Trump, il est utile de regarder son premier mandat et de ses récentes déclarations de campagne. L'immigration est un thème majeur pour Trump et ses politiques restrictives sont liées à ses vues nationalistes « America first ». En 2017, 7 jours après son investiture, Donald Trump a imposé une interdiction de visa de 90 jours, empêchant les citoyens de sept pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis.
J'établis de nouvelles mesures de contrôle pour maintenir les terroristes islamiques radicaux hors des États-Unis d'Amérique. Nous ne les voulons pas ici.
Durant la campagne cette année, M. Trump a parlé avec force de ce qu'il appelle une invasion des migrants, faisant de la sécurité des frontières un enjeu électoral majeur. Il a dit à ses partisans en Caroline du Nord ce qu'il va dire au nouveau président du Mexique.
Je vais l'informer dès le premier jour, ou plutôt, que s'il n'arrête pas cette déferlante de criminels et de drogues qui entrent dans notre pays, je vais immédiatement imposer un tarif de 25% sur tout ce qu'ils envoient aux États-Unis d'Amérique.
Durant son premier mandat, M. Trump a imposé des taxes sur les importations chinoises et semble peu susceptible de changer de tactique cette fois-ci.
Ils nous ont fait vraiment mal, c'est tellement ridicule. Ils finissent par fermer, tout le monde perd son emploi, puis ils le fabriquent dans leur pays et nous le renvoient sans taxes, sans rien. Et nous perdons cela, nous perdons l'entreprise, nous perdons les emplois, nous perdons en quelque sorte tout et c'est tellement stupide.
Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris de 2015, un traité pour lutter contre le changement climatique et les émissions des gaz à effet de serre.
J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris.
Trump dit que sa politique énergétique se concentrera sur l'augmentation de la production pétrolière nationale et un retour en arrière des réglementations environnementales.
Dès la première heure, nous pouvons faire beaucoup de choses en premier. Mais d'abord, nous allons forer.
Dans son second mandat de président, M. Trump promet donc une approche plus protectionniste et isolationniste que les 4 dernières années du président Joe Biden.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Comment expliquer cette défaite des démocrates? Pour répondre à cette question, Dili Diko a joint à New York le professeur Mohamed Mbodj.
Il n'y a pas eu de mobilisation attendue et très forte et enthousiaste des jeunes et des Noirs, en particulier les hommes noirs. Et de l'autre côté, Trump a pu attirer des votes des hommes latinos d'une manière générale et dans beaucoup d'États. Je pense que c'est fondamentalement ces facteurs qui se sont conjugués pour expliquer mathématiquement, donc la défaite de Mme Harris.
À votre avis, est-ce que le message des démocrates n'était pas assez percutant pour les électeurs et est-ce que le message des républicains aurait davantage résonné avec les électeurs américains?
Il y a une permanence du message républicain, l'économie va mal, l'inflation, etc. C'était mieux sous Trump. qui sont des faits qui ont été répétés à longueur d'antenne, même par les journalistes dans l'analyse et dans la présentation des faits. On peut en discuter et on peut même en douter, mais d'une manière générale, une fois que les gens intériorisent ce genre de phénomène, il est très difficile de changer. Donc, ce que Harris a essayé de faire, c'est de changer donc le thème, de foncer sur l'indépendance, la maîtrise de leur corps par les femmes, donc le thème de l'avortement, l'atteinte à la démocratie rampante, même disons fascisante selon sa caractérisation de M. Trump. Mais ces thèmes n'ont pas mordu, parce que, comme on dit d'habitude, les thèmes qui touchent un peu au niveau de vie, au standard de vie, à la dépense quotidienne, tendent à obscurcir et à dominer la façon de procéder et de raisonner de beaucoup d'électeurs, et en particulier ici, d'électeurs, disons, mâles, disons, des hommes, qui aussi, d'une certaine façon, certainement, ont été frileux de penser que peut-être une femme allait être présidente, et c'est une expérience que beaucoup ne veulent absolument pas accepter.
Au niveau législatif, donc au niveau du Congrès, les démocrates espéraient avoir un succès à ce niveau-là, mais comme on l'a vu, ils n'ont pas réussi à s'emparer du Sénat et ça s'annonce mal pour la Chambre des représentants. Comment expliquer la situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
C'est toujours le même phénomène qui s'applique. D'habitude, les élections présidentielles, souvent lorsqu'on vote pour ce qu'on appelle le ticket, donc la tête du ticket Trump, souvent par atavisme et souvent aussi par choix, les gens cochent tout ce qui suit après. Donc sur la même ligne, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc il n'y a rien d'extraordinaire que justement les gens qui aient voté pour Trump aient voté donc pour la ligne qui suit, ou pour tous les candidats qui suivent.
Professeur Mohamed Mbodj, joint à New York. Au Tchad, les élections aux États-Unis sont suivies avec beaucoup d'attention. Les Tchadiens ont des avis partagés sur la victoire de Donald Trump comme 47e président américain face à la candidate démocrate Kamala Harris. Une élection jugée historique. André Codemandigar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Après 4 années de déboires judiciaires et après avoir échappé à 2 tentatives d'assassinat en pleine campagne, Donald Trump a signé son retour à la Maison-Blanche face à la candidate démocrate Kamala Harris.
Les États-Unis d'Amérique passent pour un modèle de démocratie au monde, mais il n'en est rien. Aussi, les États-Unis sont machistes, sexistes et racistes. Sinon, Kamala Harris serait présidente de la République.
Djekourninga Kautar Lazar, vice-président de l'Association tchadienne pour la promotion des défenses et des droits de l'homme.
Les Occidentaux sont prêts à donner des leçons d'égalité entre les hommes et la femme et d'égalité entre tous les peuples. Mais c'est de la poudre aux yeux. Donald Trump, c'est un monsieur très très belliqueux, un président de la République qui insulte les gens comme un vulgaire monsieur. Il a été déjà président, mais il doit respecter ce titre. Alors ma crainte, est-ce que cet homme peut bien faire la paix à travers le monde? Parce que tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est l'argent.
En revanche, certains Tchadiens apprécient à sa juste valeur l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis.
Non, je suis content. Donald, là, il mérite quand il a été des tentatives d'assassinat. Là. C'est ce même jour-là que j'ai cru que Donald va gagner.
Donald Trump, je félicite quand même parce que je n'ai pas d'informations sur ça. J'ai écouté, mais pas beaucoup.
C'est une élection démocratique d'abord. Les Américains ont su choisir l'homme qu'il faut le choisir. Moi, intérieurement, j'ai voté pour Donald Trump.
L'analyste politique Laldim Narcisse estime que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sonne comme une revanche.
Personne n'a vu venir Donald Trump parce que tous les sondages donnaient la candidate des démocrates en tête. Mais en fin de compte, le peuple américain a décidé de renouveler sa confiance en cet ancien nouveau président. Mais moi, j'ai peur de ce qui se passe au Proche-Orient, puisqu'il est l'ami fidèle de Benjamin Netanyahou. Et ils sont tout le temps en contact. Alors moi, j'ai peur que les pays arabes aussi se radicalisent et qu'on parvienne à une éventuelle troisième guerre mondiale. Parce que l'Iran aussi, c'est une puissance nucléaire.
Pour le constitutionnaliste professeur Ahmad Mohamed Hassan, Donald Trump ne sera pas tendre avec les dirigeants africains au sujet de la mauvaise gouvernance.
D'abord, le président est élu pour les Américains et par les Américains. Mais pour toute l'Afrique et pour le Tchad, le retour de cet homme qui n'a pas sa langue dans la poche, je ne pense pas que les relations vont rester statiques. Les Tchadiens, ils ont en face d'eux un président sincère, mais un président très rigoureux. Et ils traitent l'Afrique de pays de merde parce que les Africains ont une carence de gouvernance. Avec toutes les ressources dont dispose l'Afrique, les Africains sont encore dans la misère. Encore dans les pandémies et la violence. Et s'il le dit crûment, sans aucune hypocrisie, eh bien, les choses vont se redéfinir par rapport à une question de rigueur. Et surtout que le Tchad est à l'épicentre de plusieurs conflits en Afrique, et notamment en Afrique centrale.
André Kodoma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Environ 1 million d'électeurs mauriciens sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections nationales. Le gouvernement sortant du premier ministre Pravin Gordhan est en quête d'un nouveau mandat de 5 ans. La campagne a été ébranlée par un scandale d'écoute téléphonique de politiciens, membres de la société civile, diplomates et journalistes. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint à Maurice Jean-Claude de l'Extrac, journaliste et ancien ministre des Affaires étrangères du pays.
Ce qui se pose aux Mauriciens, c'est la question du choix de société. Nous avons un gouvernement sortant qui a été au pouvoir pendant 10 ans, qui a fait un certain nombre de choses, qui a un bilan, notamment sur le plan social, mais qui a été très critiqué sur le plan de la bonne gouvernance. Il y a eu des critiques sur la corruption, sur la politisation des institutions, sur le dépérissement même de ces institutions. Le dernier scandale en date, c'est l'histoire des écoutes téléphoniques. On écoute tout le monde, on écoute les journalistes, les opposants, les avocats, les juges. Et donc, au fait, l'élection se déroule sur la question de savoir si l'électeur est prêt à offrir un troisième mandat, en l'occurrence, à ce gouvernement.
Maurice est vu comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, mais cette fin de campagne est marquée, vous le disiez, par un scandale d'écoute téléphonique et du blocage annoncé puis annulé des réseaux sociaux. Des observateurs y voient des signes d'érosion démocratique. Partagez-vous cet avis brièvement?
Absolument. Vous dites Maurice est vu. Au fait, pour être juste, il faudrait dire Maurice était vu. Parce que sur tous les indices internationaux ces derniers temps, on a vu une régression du rang de Maurice en termes de démocratie, hein, en termes de liberté de la presse, en termes de liberté d'expression de manière générale, en termes de politisation des institutions. Et donc on a régressé. Est-ce qu'il y aura un sursaut dans ces élections, c'est tout l'enjeu.
En octobre dernier, Maurice a conclu un accord qualifié d'historique avec le Royaume-Uni sur l'archipel des Chagos. La date de ces législatives a justement été annoncée au lendemain de cet accord. Le gouvernement sortant de Pravin Gordhan tente-t-il de tirer profit de ce développement majeur ou ce scrutin s'annonce-t-il très serré, comme le disent certains analystes?
C'est extrêmement exagéré de dire que c'est un accord historique. Ce qui était présenté comme une victoire historique est en train de totalement contre-productif pour ce gouvernement, parce que dans la pratique, il n'y aura pas de Chagossien, c'est Diego Garcia. Au fait, bon, c'est un mirage. Hein. En revanche, Maurice a obtenu la rétrocession des autres îles faisant partie de l'archipel des Chagos. Cette question est à nouveau sur le tapis et l'arrivée de Trump relance, au fait, le débat, la discussion. Il y a des Britanniques qui ont déjà pris contact avec l'équipe de Trump qui essayent de remettre en question l'accord.
Jean-Claude de l'Estrac, ancien parlementaire mauricien et ex-secrétaire général de la commission de l'océan indien. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Joselle Morissin. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.